Radio Stable.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Si on m'avait dit qu'un tel événement viendrait jusqu'à Saranx, je ne l'aurais pas cru. Il va y avoir beaucoup d'excitation. Tous les billets sont déjà vendus.
Eh ben oui, on la commence doucement cette Coupe du Monde en regardant à quoi ressemblent les infrastructures russes. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde. Je vous emmène à Sarantz, justement. Zéro culture football dans cette ville, mais un stade tout neuf de 43 000 places. Quatre matchs à venir. Ah oui, c'est aussi la ville de Depardieu, Sarantz, figurez-vous. Sous les radars, et Frédéric Mettezo ce soir. Et si le Qatar entrait dans l'OTAN, une affaire de nationalité au Liban et un youtubeur tout jeune au Pakistan. 18h50, le cinéma en VO et Corinne Pellissier ce soir. Le film de Jafar Panahi qui sort aujourd'hui après son prix du meilleur scénario à Cannes. Jafar Panahi, l'Iranien, évidemment. 18h50. 55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Avant l'ouverture du G7, c'est bientôt, mais il n'est pas sûr que ce soit vraiment là que se prennent les vraies décisions. Avant cela, donc on l'entame, cette Coupe du Monde de foot avec notre invité ce soir. Et pour vous aider à comprendre ce que les soubresauts du monde doivent au football. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Allez, je vous vois venir, vous, les allergiques au foot. Je vous entends d'ici soupirer un mois de foot à venir. Mais quel enfer, tout ça pour des milliardaires en short, etc., etc. Ouais, c'est sûr, on peut voir ça comme ça. Ou alors, on peut aussi se souvenir de ce que le foot a apporté à la planète. En quoi il a été aussi le vecteur de lutte sociale, le vecteur de résistance. En quoi il a pesé dans des guerres ou dans des dictatures. Et on verra d'ailleurs si c'est encore vrai aujourd'hui. Bonsoir Michael Correa.
Bonsoir.
Une histoire populaire du football, l'audition, la découverte, c'est votre livre qui nous rappelle ce qu'il y a vraiment effectivement derrière le foot populaire, derrière le mot populaire justement du football. C'est un bouquin passionnant qui parle aussi d'émancipation en fait à travers le foot. On ne va pas revenir tout à fait à l'origine, mais enfin quand même un peu. Le foot moderne se met en place dans ce qu'on appelait les public schools en Angleterre à l'époque. Donc c'est l'élite britannique en fait qui jouait au foot. À quel moment le peuple prend sa part et comment à s'emparer de ce foot-là?
Alors, c'est un phénomène qui est assez marrant. Donc, effectivement, le foot naît au milieu du 19e siècle, en 1863. Hein, c'est vraiment cette année-là qu'il est codifié. Donc, c'est un sport d'aristocrate. Et donc, les gens qui ont appris le football deviennent les futurs patrons d'industrie. Et donc, ces futurs patrons d'industrie veulent inculquer le football à leurs ouvriers pour leur inculquer, premièrement, la division du travail, mais aussi les valeurs d'obéissance au chef, les valeurs d'esprit d'initiative, d'esprit de compétition. Mais ça se retourne. Enfin, il y aura aussi une optique de contrôle social dans le sens où il faut que les ouvriers à leur sortie de l'usine n'aillent pas dépenser.
Il faut les occuper en sortant de l'usine.
Il ne faut pas qu'ils aillent au pub. Surtout, il ne faut pas qu'ils se syndicalisent.
On est au début de la révolution industrielle. On est dans la grande ère des patrons très paternalistes. En fait, c'est à ça que ça servait à ce moment-là.
Oui, exactement. Mais il va se passer quelque chose. Enfin, un retournement dans le sens où les ouvriers vont tellement adorer le football parce que c'est des gens qui sont issus de l'exode rural. Ils ont besoin de refaire communauté, de retrouver des repères culturels, des repères sociaux. Et c'est vrai que le foot va vraiment servir de terreau dans le sens où ils vont aller au match tous les samedis, tous les dimanches. Le lundi à l'usine, on parle des résultats de football, etc. Donc ça va vraiment devenir le terreau d'une culture ouvrière et aussi par prolongement d'une certaine conscience de classe qui va être ensuite le moteur de toutes les luttes sociales du 20e siècle.
Alors on va y venir, mais il y a une chose qui m'a complètement fascinée au démarrage en fait, dans la manière dont la normalisation des règles est faite. Il y a déjà quelques règles du football, elles sont très simples, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça marche très bien.
17 lois. Ouais.
Exactement, 17 lois. À un moment, il faut normaliser tout ça et tout ça répond finalement aux règles de la révolution industrielle. Ça veut dire que s'il y a des postes de jeu, c'est aussi une forme de division du travail. On a l'impression qu'on calque la règle sur ce qu'on voit à l'usine, en fait, d'une certaine
effectivement,
façon.
Effectivement, c'est vrai qu'on le voit dès la naissance du foot que l'émergence du football et l'émergence du capitalisme industriel sont intimement liées dans le sens où même la codification du jeu en elle-même, elle répond à une optimisation du terrain, parce que donc c'est des jeux qui étaient pratiqués. Donc c'est des jeux villageois avant, qui étaient pratiqués dès le Moyen-Âge dans les campagnes anglaises. Et au fait, petit à petit, la bourgeoisie agraire va s'accaparer, va privatiser les terrains.
Et fermer les terrains.
Et fermer les terrains. Karl Marx va dire que c'est même une des étapes fondatrices du capitalisme industriel. Et comme on a de moins en moins d'espace, comme cet espace est clôturé, privatisé pour que la bourgeoisie agraire commence à capitaliser, donc on va commencer à limiter le terrain et donc on va commencer à aussi limiter le nombre de joueurs. Et petit à petit, effectivement, il y aura cette division en deux camps avec un homme en noir qui va distribuer la loi, qui va être l'arbitre, quoi.
Et il y a un moment, vous le disiez, où non seulement on en parle du foot quand on revient au boulot, donc ça commence à fédérer aussi un certain nombre de choses, et à un moment, syndicalisme et football se mêlent l'un à l'autre, en fait. Il y a un moment où ces deux mondes-là se rencontrent.
Oui, bah, y aura un moment très particulier avec la professionnalisation du football, et ça c'est encore une fois un des paradoxes, une des contradictions du football, et qui est assez intéressante, parce que cette professionnalisation, en fait, ça va être une revendication ouvrière. Donc on va commencer, enfin les patrons d'usines vont commencer à donner un petit billet aux ouvriers footballeurs pour compenser la perte de journée sur les chaînes de montage. Mmh. Mais en fait, en 1907, notamment à Manchester, qui est la grande cité cotonnière de l'époque, qui est en pleine effervescence syndicale, hein, c'est là que les grandes centrales syndicales ouvrières se mettent en place. Donc ces ouvriers footballeurs, notamment ceux de Manchester United, hein, vont dire, nous, on veut monter un vrai syndicat de footballeurs et être affilié à une grande centrale syndicale ouvrière, parce que on se revendique comme des travailleurs à part entière. Et on veut aussi mettre en place, par exemple, une mutuelle, parce que quand nos camarades sont blessés sur le terrain, il faudrait que, voilà, on compense leur perte de journée de travail. Donc il va y avoir comme ça, notamment en 1909, un grand mouvement de grève, notamment Manchester United, pour revendiquer cette affiliation aux grandes centrales, à une grande centrale syndicale ouvrière, quoi. Donc, ils vont refuser, hein, parce qu'il y aura une telle pression du patronat industriel à l'époque que ça va pas bien se passer. Mais finalement, c'est là un peu une première fois qu'il y a une vraie union, une espèce de convergence des luttes, entre guillemets, entre footballeurs professionnels et travailleurs ouvriers.
Et alors, on lira avec intérêt dans votre livre, notamment, moi ça m'a fait rire qu'en 1920, par exemple, chez nous, au moment du congrès de Tours et la scission entre communistes et socialistes, on scinde aussi entre équipes de foot. Il n'y a pas de raison,
le mouvement
en fait.
Ouvrier, oui, c'est vrai que au début du 20e, pardon, notamment en France, le mouvement ouvrier va être un peu malaise par rapport au football, dans le sens où on va se dire, c'est bizarre, tous les ouvriers sont dans le giron des clubs des patrons, et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc certains vont dire, le foot, c'est une école de la compétition, le maillot, ça efface les distinctions de classe, et d'autres vont dire non, ça peut être aussi une très belle école du socialisme ou du communisme, dans le sens où le plaisir individuel est tributaire du mouvement collectif de l'équipe. Bref, ça peut être une bonne école de la coopération. C'est vrai qu'il va y avoir un mouvement ouvrier qui va émerger à cette époque-là. Il y aura des gros débats au sein de l'humanité, mais après le congrès de Tours, effectivement, on va avoir une fédération sportive d'obédience socialiste, entre guillemets, et une fédération sportive d'obédience communiste. Ils vont se réunir ensuite en 1934, et ça va être un peu la préfiguration du fameux Front Populaire. On va tester dans le milieu sportif et dans le milieu footballistique le Front Populaire.
Eh ben, vous m'emmenez en 1934, tiens, je voulais qu'on avance un petit peu, vous m'emmenez à la première Coupe, pas la première d'ailleurs, à la Coupe du Monde, la deuxième, celle en Italie, celle de Mussolini, en fait, en 34. À quel moment les dictatures comprennent qu'elles ont en un stade de foot et dans les supporters un espace de propagande inouïe, en fait?
C'est vraiment Mussolini qui va créer ça. La première Coupe du Monde, donc c'est 1930 en Uruguay, elle va passer assez inaperçue, parce que on est juste après la crise de 1929, les joueurs vont pas pouvoir se déplacer, etc. Mais en 1934, Mussolini va très bien comprendre le potentiel mobilisateur, comment il peut mobiliser les foules, comment ça peut être aussi une mise en scène du corps fasciste, etc. Donc c'est la première fois qu'il va mettre en scène, il va spectaculariser ce football-là. Donc il va inviter plein de médias, il va avoir aussi des traducteurs pour traduire les matchs en direct à la radio, en différentes langues. Il va se mettre en scène aussi, donc il va même pas délivrer la Coupe du Monde, il va délivrer une Coupe du Monde, une Coupe Mussolini. Donc c'est vrai que c'est le premier qui va vraiment mettre en scène ce football-là au service du régime. Mise en scène qui va énormément servir aussi à Hitler dès les JO de 1936 à Berlin. Il va vraiment puiser dans ce qu'a fait Mussolini en 1934.
Et en fait, il y a les deux, à la fois les dictateurs, effectivement, Hitler et Mussolini, qui utilisent le stade, qui utilisent le foot, mais il y a aussi les joueurs. Il y a le fameux épisode de comment s'appelle-t-il, Matthias Sindelar, au moment de l'Anschluss.
Exactement.
Donc c'est lui qui marque le but, il est dans l'équipe autrichienne, il marque le but contre l'Allemagne.
Oui, c'est ça.
Et il sait ce que ça veut dire quand on est en train de se faire absorber, et qu'on marque
Matthias
un but
Sindelar,
contre l'Allemagne.
C'est vraiment le premier joueur, donc, qui est d'origine autrichienne, viennoise même, qui va résister à l'hégémonie nazie sur le football. Donc en avril 38, juste après l'Anschluss, il y aura un match amical qui va être organisé entre l'Allemagne et l'Autriche, où c'est clairement un match de propagande. Le but, c'est que le match se termine par un 0-0 pour incarner un peu l'égalité sportive des deux peuples germanophones. Mais ça prépare aussi la fusion entre l'équipe d'Allemagne, qui était pas très bonne, et l'équipe autrichienne, qu'on appelait à l'époque la Wunderteam, l'équipe de rêve. Le truc, c'est que donc Matthias, les Allemands, durant ce match, vont tellement mal jouer que les Autrichiens, ils vont commencer à devoir un peu feinté pour tromper l'ennui. Et à la 78e minute, Sinlar va marquer un but au grand désespoir des dignitaires nazis. Quelques minutes après, on va avoir un autre joueur qui s'appelle donc autrichien, qui s'appelle Karl Selsta, qui va marquer un second but. Et donc les deux joueurs vont même faire une petite danse de la joie pour un peu provoquer les dignitaires. Et en fait, ça a vraiment brisé la machine de propagande, parce que Matthias Sinlar, on l'appelle l'homme de papier, c'est un joueur tout chétif, tout frêle. Et Karl Selsta, on l'appelle, il est d'origine polonaise et on le surnomme le gros. Donc c'est deux personnes qui sont vraiment aux antipodes de la propagande arienne, du corps arien.
Il y a beaucoup de choses dans votre livre, beaucoup de périodes de l'histoire en fait, dont on a peut-être oublié quel était le lien avec le foot, mais on va passer vite. Je pense à Socrates au Brésil par exemple, et cette fameuse équipe qui était une espèce de résistance ambulante à l'époque à la dictature des généraux. Je voudrais qu'on s'approche de notre époque. 2011, la place Tahrir, en quoi les supporters de foot ont eu un rôle important, ont pris aussi la répression en pleine figure d'ailleurs.
Oui, ils ont vraiment été, ça c'est une histoire qui est très peu connue, mais c'est vrai qu'ils ont effectivement été un peu le bras armé du mouvement révolutionnaire égyptien en 2011. Il faut savoir qu'en Afrique du Nord, en 2007, la culture, ce qu'on appelle la culture ultra, donc c'est une culture supporter un peu radicale, où on s'engage un peu corps et âme.
Exporté d'Europe d'ailleurs, qu'ils ont été cherchés chez nous.
Voilà, qui vient d'Europe, ça vient d'Italie à la base, hein, c'est né en Italie dans les années 70. Donc cette espèce de supporterisme où on s'engage corps et âme pour son équipe, débarque en 2007 en Afrique du Nord par Internet. Hein, les jeunes vont vraiment être fasciné par rapport à ça. Et donc en Égypte, et notamment au Caire, au sein d'un club qui est le club le plus populaire d'Afrique, un des clubs les plus talentueux, qui s'appelle le Al Ahly. Dans ce club-là, donc, on va avoir un petit groupe de supporters qui va émerger, de supporters ultra. Et très rapidement, ça va faire tache d'huile, dans le sens où on va quand même avoir 5 à 10 000 jeunes qui se réunissent tous les week-ends dans les stades pour soutenir leur équipe. Le truc, c'est que ce mouvement de jeunes est totalement autonome. Hein. Il est indépendant financièrement du club. Il revendique aussi une farouche indépendance. Et donc, ils vont commencer dans les stades. C'est dans ces stades-là, notamment du Caire, et ces jeunes vont commencer à contester le régime Moubarak. C'est vraiment dans ces stades du Caire qu'on va entendre les premiers slogans aussi le régime. Et donc, le régime va pas du tout plaire et donc va envoyer la police. Petit à petit, ils vont commencer à mettre en place des pratiques d'autodéfense face à la police. Effectivement, quand le mouvement éclate, le printemps arabe éclate en janvier 2011 et qui occupe la place Tahrir, les supporters vont vraiment être le bras armé et défendre la place Tahrir des différentes excursions de l'armée et de la police pour tenter de déloger les militants.
Ce sera la dernière question, Michael Goria. Vous êtes en train de nous faire la démonstration en nous racontant cette anecdote que ça existe encore, en fait.
Oui,
le vrai rapport entre le foot populaire et comment ça peut changer aussi, y compris le cours d'un pays. Mais quand même, je me posais la question, est-ce que chez nous et dans nos pays d'Europe ça existe encore? On a l'impression que finalement le foot c'est plus une ville, c'est même plus un quartier, c'est une marque, c'est tout ça. Donc est-ce qu'on est en train de perdre aussi quand même toute cette fonction du foot?
Il y a un gros rapport de force qui s'établit aujourd'hui, notamment dans les tribunes. Hein, je pense notamment aux fameux, encore une fois, supporters ultra, où c'est vrai qu'il y a eu pas mal de débordements pour ceux qui suivent le foot. Depuis janvier notamment, on voit pas mal de débordements de supporters. C'est pas anodin, pour moi c'est vraiment...
C'est ce qu'on craint en Russie d'ailleurs.
Oui, c'est ce qu'on craint en Russie. Bon, aussi, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment les hooliganismes qui est assez manipulé par l'État. Mais je pense qu'il y a un vrai rapport de force qui est en train de s'établir aujourd'hui entre les supporters qui veulent être des acteurs démocratiques à part entière au sein du football et défendre leurs pratiques culturelles, défendre un football accessible à tous dans les stades, et les instances dirigeantes des clubs qui sont, eux, plus, on va dire, qui doivent répondre à des injonctions de rentabilité économique.
Et c'est vrai que la FIFA, d'ailleurs, est critiquée dès le début. À peine née, déjà critiquée.
C'est dans l'essence même de la FIFA, de toute façon. C'est vraiment une institution au service du football marchand. Ça, c'est clair et net.
Allez, ça s'appelle Une histoire populaire du football. Michael Goria, merci beaucoup. C'est publié aux éditions La Découverte. Merci mille fois.
France Inter. Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Et la suite d'Un jour dans le monde tient justement en Russie. Pour prolonger un peu notre discussion, notre conversation, on verra où en sont les fameuses 11 villes qui accueilleront des matchs à partir de la semaine prochaine maintenant. Sous les radars est Frédéric Mettezo avec une question notamment, est-ce que le Qatar entrait dans l'OTAN? Le cinéma en VO, Corinne Pellissier, bonsoir.
Bonsoir.
Le voilà donc sur les écrans, ce fameux film iranien dont on a beaucoup parlé sur la croisette.
Exactement, 7 ans qu'il est obligé de se cacher pour travailler, récompensé à Cannes d'un prix du scénario. Le nouveau film de Jafar Panahi est au cinéma aujourd'hui. 3 visages.
Et on en parle dans un instant, le monde à l'envers. Jean-Marc Four, Jean-Marc, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Le G7 commence maintenant, demain, au Canada, mais c'est pas le G7 qui gouverne le monde.
Ouais, on s'en fiche un peu fait. Hein, le G7 c'est nous, mais bon, c'est un peu le monde d'hier.
Allez, le tour de la planète continue avec les très British Rolling Stones, figurez-vous. Pour me souvenir du titre de la chanson, Mick Jagger, très sympa, l'a beaucoup répété. 19's Nervous Breakdown sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et Frédéric Mettezo est là sous les radars. Frédéric, on commence avec l'OTAN qui serait prête à accueillir un nouveau membre alors.
Et si c'était le cas, on serait bien loin de l'Atlantique Nord puisque le Qatar souhaite adhérer à l'OTAN. Selon le ministre de la Défense de l'Émirat, le moment de cette annonce n'est pas anodin. Nous sommes un an tout juste après le début de la crise entre le Qatar d'un côté et de l'autre l'Arabie Saoudite, les Émirats, Bahreïn et l'Égypte. Vous vous souvenez, ce blocus aérien et la fermeture de la frontière terrestre. Le Qatar achète des armes américaines, britanniques et françaises par millions. Les Américains ont une base militaire sur place, mais l'OTAN ira-t-elle jusqu'à intégrer le Qatar au risque de fâcher l'Arabie, allié historique des États-Unis ? À Bruxelles, ce matin, un responsable de l'Alliance rappelle que seuls des pays européens peuvent y adhérer.
Et fermez les guillemets. Immense polémique au Liban, Frédéric, à propos du code de la nationalité.
360 étrangers ont obtenu la nationalité libanaise récemment, dont plusieurs hommes d'affaires syriens réputés proches de Bachar el-Assad. Des députés libanais s'inquiètent. Ils ont peur que ces personnes prennent pied dans le secteur bancaire libanais. Et vous le savez, toute intervention syrienne au Liban, qu'elle soit politique, militaire ou économique, est un sujet épidermique.
Et surtout que la nationalité, c'est une vraie question de société. Au Liban.
Oui, la loi en vigueur date de 1925 et au Liban, seuls les hommes peuvent transmettre la nationalité à leurs enfants. Voilà donc des années que des Libanaises mariées à un étranger dénoncent cet état de fait. Nadira Nahas est libanaise, son époux est américain. Sur le site de L'Orient Le Jour, elle raconte que son fils aîné a fait médecine à Beyrouth, mais il ne peut pas s'inscrire à l'ordre des médecins. Son fils cadet veut être pilote de ligne, mais il ne peut pas travailler pour la compagnie nationale.
In einem Interview mit dem rechten Internetportal Breitbart sagte der Diplomat.
Non, c'est pas celui-là, c'est pas vraiment de l'arabe. Alors, non. Je vais vous expliquer en quelques mots ce que nous aurions dû entendre. Nadira explique que cette loi est très discriminatoire envers les Libanaises, que cette loi disperse les familles et les enfants, qui perdent leur sentiment d'appartenance au pays dans lequel ils sont nés, où ils ont grandi et dont ils parlent la langue.
Vous l'avez très bien fait.
Alors, face à la mobilisation politique et médiatique et de la société civile, civile, le président Michel Aoun, qui avait signé ce décret de naturalisation, a demandé un rapport sur les personnes concernées pour voir si elles méritaient vraiment la nationalité libanaise.
Allez, tout autre chose Frédéric, les jeunes youtubeurs savent aussi être très sérieux parfois.
Oui, c'est le cas d'Ahmad Safi, un jeune pakistanais de 11 ans qui a créé sa chaîne YouTube. Il est coach en motivation, 11 ans. Avec sa petite bouille toute mignonne, les yeux et le cheveu noir, il porte le costume et parfois la cravate. Et ses conférences pour développer la confiance en soi attirent des centaines d'adultes avant d'être vues des millions de fois sur Internet. Écoutez-le chauffer son public à l'université du Punjab à Lahore. Alors, la suite du discours se fait en ourdou.
On a bien demandé comment ils allaient.
Bien. Alors ensuite, Ahmad incite au dépassement de soi. Il invite les plus pauvres à briser leur plafond de verre. Ce petit garçon, issu de milieux aisés, a quitté l'école pour aller directement en fac d'anglais, car ses professeurs avaient remarqué son incroyable confiance en lui. Il est une star au Pakistan. Il est invité à la télévision. Il rencontre des diplomates, des politiques et des responsables économiques. Il veut faire bouger les lignes dans ce pays très inégalitaire, sous pression des fondamentalistes musulmans et où plus de 40% de la population est analphabète. On retrouve un peu de Malala chez Ahmad, sauf que lui, en plus, contrairement à la jeune fille prix Nobel de la paix, lui, n'hésite pas à exalter la nation, l'armée et le drapeau pakistanais.
Ce qui fait la différence. Merci beaucoup Frédéric Mettezo, sous les radars.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mecca, le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Москва 15:30 новости. Следственный комитет возбудит о нападении на журналиста радиостанции «Эхо Москвы».
Allez, je vous avais promis de poursuivre un peu la conversation de tout à l'heure. On parlait de foot, sport populaire. C'est au moins l'occasion d'aller voir comment se préparent les 11 villes qui vont accueillir les matchs en Russie, Moscou évidemment, Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, etc. Des lieux plus baroques. Cela dit, exemple, la petite ville de Saransk. Saransk, c'est 300 000 habitants, si ce nom vous dit vaguement quelque chose, c'est parce que figurez-vous que c'est là qu'habite Gérard Depardieu. Bonsoir Claude Brouillot.
Bonsoir Fabienne.
Alors Claude, Sarans, donc un stade tout neuf de 43 000 places, sauf que, c'est là que ça devient baroque, aucune culture football de haut niveau, 1000 licenciés dans toute la région, ça fera quand même sacrément bizarre à Ronaldo quand il arrivera avec son équipe du Portugal.
Lorsque l'on descend de l'un des deux seuls trains quotidiens qui relient Moscou à Saransk, la première chose qui interpelle, au-delà des drapeaux de la FIFA qui flottent sur tous les lampadaires des avenues, c'est une odeur. L'odeur du goudron noir, encore tiède, qui recouvre les trottoirs. Saransk respire le neuf et la fierté d'accueillir quatre matchs du mondial, un peu à la surprise générale. Même le président du comité régional de football, Alexander Yachkov, n'en est pas encore revenu.
Si on m'avait dit qu'un tel événement viendrait jusqu'à Saransk, je ne l'aurais pas cru. Je crois que la moitié du stade sera habillée avec le t-shirt de Cristiano Ronaldo. Pour les jeunes, bien sûr, c'est leur idole. Pour certains gamins, le foot, ce n'est pas seulement un loisir, mais une véritable religion. Il va y avoir beaucoup d'excitation. Tous les billets sont déjà vendus.
Dans le seul McDonald's du centre de Saransk, on trouve l'un des heureux bénéficiaires de ces fameux billets pour admirer Cristiano Ronaldo. Oleg a 40 ans, il est consultant dans sa ville d'origine et il attend avec impatience le 25 juin, le jour où la star portugaise foulera la pelouse du stade local.
La grande attention est bien sûr pour Portugal parce que Cristiano Ronaldo est une média star, je crois. Et je suis bien sûr que beaucoup de touristes iraient aussi pour voir cette grande star, Cristiano Ronaldo. J'ai acheté un billet, c'est 10 000 roubles pour un billet. Mais c'est un billet, parce que j'aime beaucoup Portugal, j'aime beaucoup Cristiano Ronaldo.
Alors Claude, quand même, on se demande comment cette petite ville russe a pu s'y reprendre pour avoir quatre matchs de la Coupe du Monde.
Alors officiellement, et pour résumer, le gouverneur de la Mordovie a de très bonnes relations avec le pouvoir central. En clair, quand vous constatez qu'une grande ville de football comme Krasnodar n'accueillera aucun match du Mondial, alors que Saransk va en avoir quatre, il y a de l'arbitraire évidemment dans cette décision. Vladimir Gridin, le responsable régional du parti d'opposition Yabloko, y voit carrément un nouveau symbole de la corruption qui gangrène la Russie.
Je pense qu'il n'y a aucune surprise en Russie. Le problème le plus sérieux, c'est la corruption. Mais pour les habitants, on dit que ça va être la fête. Et pourtant, on demande aux gens de partir à la campagne ou ailleurs. On dit que ça va être la fête, mais elle est où cette fête? Personne ne la voit. Tous disent qu'on a un праздник, mais où est le праздник, personne ne voit.
Toujours d'après Vladimir Gridin, depuis deux mois, les taxes locales sur l'eau, le gaz, les services municipaux ont augmenté de près de 40% en lien direct avec le coût des installations du stade notamment qui va accueillir les matchs du Mondial à Saransk. Totalement à l'écart de ces polémiques, les 1300 bénévoles de la capitale de Mordovie entretiennent leur enthousiasme dans un centre d'accréditation encore désert, installé dans un grand bâtiment blanc en face du stade. Natalia est l'une de ses volontaires. Elle dit même qu'elle est la plus vieille. La soixantaine énergique, cette ancienne professeure de français, habituée au voyage, habituée aux étrangers, est certaine que les supporters des 8 équipes qui viendront à Saransk ne poseront aucun problème. Tout a été mis en œuvre, dit-elle, pour qu'il en soit ainsi.
Nous sommes prêts à n'importe quel événement, à n'importe quel supporter. Et eux, ils seront en sécurité. Ils seraient bien sûr bien gardés parce qu'il y a beaucoup de services qui sont prêts pour garder de l'ordre et la sécurité pour tout le monde.
Quand vous dites qu'il faut garder de l'ordre, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il n'y a pas d'incident parce que c'est la vie. La vie doit être calme, paisible et comme ça.
Ils ont quand même le droit de chanter, de marcher. Marcher dans les rues, de crier.
Moi, je chante avec eux.
Claude, une toute dernière chose avant de vous quitter. Saransk ne sort pas totalement de l'anonymat uniquement grâce à la Coupe du Monde. On y a fait un peu allusion tous les deux tout à l'heure. C'est aussi le lieu de résidence du plus célèbre des Français naturalisés russes. Donc c'est Gérard Depardieu qui a même un centre culturel à son nom dans la ville.
Absolument, inauguré en sa présence il y a deux ans, c'est surtout une grande salle de cinéma, un peu à l'écart du centre-ville. Dans le hall d'accueil, il y a des expositions de peinture et de dessins d'enfants. La plupart des films à l'affiche sont russes. Au mur, des portraits de Gérard Depardieu, une photo grandeur nature de l'acteur en costume traditionnel de Mordovie. Valentina Romazanova, la directrice des lieux, aimerait bien que Gérard Depardieu vienne à Saransk assister à un match du Mondial. Elle ne l'a pas revu depuis l'inauguration, donc il y a deux ans, mais elle assure qu'avec ou sans lui, l'accueil à Saransk, dans quelques jours, sera parfait.
Vous savez, nous sommes une nation très accueillante et les habitants de Mordovie sont comme tous les Russes. Nous sommes très contents d'accueillir tout ce monde. On est prêts à héberger, abreuver et nourrir tous ces visiteurs. On fera tout notre possible avec grande joie pour que tout se passe bien. Pour moi, je ne pense pas qu'il y aura des problèmes. Tous les gens en Mordovie seront positifs avec les supporters étrangers. J'en suis sûre à 100%.
Alors évidemment, on ose à peine imaginer ce que pourrait donner une rencontre entre Cristiano Ronaldo, accueilli à Saransk, au fin fond de la Mordovie, par Gérard Depardieu, avec la bénédiction en plus de Vladimir Poutine. Il faudra patienter donc jusqu'au 25 juin pour ce match Portugal-Iran, pour savoir si cela relevait du fantasme ou de la magie du football.
Voilà, vous l'avez en tête, hein, vous, Claude, l'image. On a bien compris Ronaldo Depardieu. Moi, je veux bien qu'on parie ensemble. Je ne suis pas très sûre, en fait, qu'on verra cette image-là. On le verra ensemble, puisqu'on vivra cette avant-Coupe du Monde et puis le début aussi, bien sûr, en Russie, grâce à vous. Merci. 3, 2,
1, winter. France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Le ciné en VO tous les mercredis dans Un jour dans le monde avec ce film iranien donc dont on a beaucoup parlé à Cannes, Corinne Pellissier, Jafar Panahi qui a d'ailleurs gagné le prix du meilleur scénario. Ça s'appelle Trois visages. On a laissé tomber le taxi de Téhéran là pour le coup vraiment. On s'enfonce loin de la capitale. On est dans le nord-ouest du pays.
سه روزی که مرضیه رفته از خونه بیرون بر نگشت. هوای دانشگاه چه زد به سرش؟ میدونستم آخر عاقبت خوبی نداره. گفتیم شوهر بدیم، شاید دانشگاه یادش.
سه روز ازش خبر ندارن این روزه؟
Alors Corée nous raconte un peu, le film démarre sur une vidéo, c'est une comédienne en herbe qui est en lutte contre le poids des traditions que lui impose sa famille. Elle est en train de se filmer, en train de se pendre. Et ce qu'on ignore, c'est si c'est une manipulation, si c'est un suicide, si c'est une pure intox. Et donc Jafar Panahi, avec son amie qui est comédienne, Behnaz Jafari, très populaire en Iran.
Voilà, pour ses rôles dans des séries.
Voilà, beaucoup de rôles à la télé, effectivement, vont ensemble mener l'enquête et s'embarquer dans cette espèce de road movie qui a été encore une fois tournée clandestinement.
C'est-à-dire que c'est devenu une sorte, hélas, de marque de fabrique, hein, après Taxi Téhéran qui lui avait valu l'ours d'or à Berlin en 2015. Jafar Panahi, obligé à nouveau de se cacher pour travailler. Cela fait suite à une condamnation de justice il y a 7 ans. Il avait été poursuivi pour avoir pris part à des rassemblements anti-Ahmadinejad lors de sa réélection et avait écopé de 6 ans de prison pour propagande contre le régime, plus 20 ans d'interdiction de voyager, d'écrire ou de réaliser des films. Voilà pourquoi il travaille dans la clandestinité. Il est actuellement en liberté conditionnelle et donc susceptible à tout moment de retourner en prison. Ce qu'il protège aujourd'hui, ce sont ses prix et sa notoriété internationale. Même si ses allées-venues sont compliquées, il n'a pas été autorisé par exemple à venir au Festival de Cannes pour présenter son film, ni pour retirer son prix.
Mais alors ce qui est formidable, et c'est là tout son talent d'ailleurs Corinne, c'est que d'un film à l'autre, il utilise ses contraintes en fait, pour les mettre au service de ses films et de sa créativité.
Exactement. Taxi Téhéran, un film à huis clos dans une voiture pour une galerie de portraits qui en dit bien plus long sur l'Iran que n'importe quel autre film aujourd'hui. Et ici, dans Trois visages, le parcours d'une jeune femme qui voudrait devenir comédienne, mais se retrouve empêchée de réaliser son art à cause de sa famille, du poids des traditions. On peut y voir une sorte d'écho à la situation personnelle du réalisateur, qui signe une nouvelle fois un film très fin, très réussi, avec de l'humour et surtout très peu de moyens.
Alors le tournage, on l'a un peu dit, a eu lieu donc à l'abri des regards, évidemment, dans un village reculé au nord-ouest de l'Iran. Mais la prise de risque, elle, est une prise de risque bien réelle, pas seulement d'ailleurs pour le réalisateur.
Exactement, la comédienne principale du film, Behnaz Jafari, elle aussi risque gros pour avoir joué tout simplement dans un film illégal. Mais son admiration pour le réalisateur et le message surtout sur la condition de la femme en Iran l'ont convaincue qu'il fallait y aller. D'autant que le parcours de la jeune héroïne du film qui s'appelle Merzia lui a beaucoup fait penser à son parcours personnel.
Effectivement, j'ai vécu des expériences très similaires. Quand j'ai commencé, ma mère, qui était une personnage très importante, évidemment, comme toute mère pour moi, était très contre. Elle n'arrivait pas à comprendre. Je me suis inscrite à l'université d'art. La première trimestre, elle n'était même pas au courant. Donc, c'est plus tard qu'elle a su. Et elle était très contre pour le théâtre aussi. Elle croyait que c'est un milieu particulièrement corrompu et que tout pourrait arriver à sa fille. Et c'est seulement quand je l'ai introduit à la directrice de théâtre, elle est venue nous visiter, nous rendre visite là-bas sur scène. Elle a connu les gens, elle a vu que nous aussi, comme tout le monde, on pleurait, on riait entre nous, on parlait, etc., on jasait. Elle a commencé à un peu s'adoucir. Et même une fois, elle est venue un des soirs au théâtre, elle est venue tendrement nous offrir une fleur à chacun des participants. Mais parfois, elle me disait par exemple, tu sais, ce soir ne va pas. Je lui disais, mais c'est le théâtre, il faut que j'y aille tous les soirs. Elle disait, non, mais ce soir, tu peux rester à la maison, il n'y a pas de problème. Et moi, je lui disais, non, même si je meurs, mon cadavre doit aller et se poser sur la scène.
Voilà, la société iranienne d'aujourd'hui, le poids des traditions, on l'a bien compris, du religieux aussi, la place des femmes, le rapport de la culture, tout est là, et même un peu plus, puisque Jafar Panahi, qui a longtemps été l'assistant d'Abbas Kiarostami, disparu il y a 2 ans, a rempli son film de référence et de clin d'œil.
Voilà, vous nous conseillez donc d'y aller, d'y courir même, voir ce film de Jafar Panahi, ça s'appelle Trois visages, donc trois portraits de femmes, trois générations, et ça sort ce mercredi. Corinne Pellissier, merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saintès sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, Emmanuel Macron va arriver au Canada, là, c'est
il
bientôt.
Est dans l'avion.
Il est dans l'avion,
dans
bon, il y est dans deux heures, très bien. Il y va pour le sommet du G7, ça dure jusqu'à samedi, c'est le rendez-vous des grandes puissances économiques occidentales, ça, on a l'habitude de ce genre de grands rendez-vous, mais maintenant, dans votre monde à l'envers, vous vous dites, ouais, mais on se berce d'illusions, peut-être qu'on regarde pas du bon côté, surtout, en croyant que les maîtres du monde sont bien au G7, on ferait mieux de regarder ailleurs, en cette fin de semaine, et même carrément à Shanghai.
Alors vous connaissez le miroir de Blanche-Neige, évidemment, ou plutôt de sa marâtre. Hein. Miroir, miroir, suis-je toujours la plus belle. Mm-hmm. Ben, le G7, c'est un peu ce miroir magique qui, chaque année, vient dire aux Occidentaux « Vous êtes les plus forts et les plus beaux ». Alors au début, en 1975, c'était sans doute vrai, lors de cette première réunion initiée par Valéry Giscard d'Estaing, c'était au château de Rambouillet. 43 ans plus tard, on fait juste semblant de continuer à y croire. Couverture médiatique abondante, évidemment, présence de tous les chefs d'État ou de gouvernement américains, britanniques, allemands, français, italiens, canadiens, japonais. On va guetter le degré de cordialité des poignées de main, on va scruter les rencontres bilatérales, Emmanuel Macron passera 30 minutes chrono avec Donald Trump. On va se féliciter que le Canadien Justin Trudeau ait mis de nouveaux sujets à l'ordre du jour, comme l'égalité entre les sexes. Et on va se consoler devant les désaccords en se disant que malgré tout, c'est bien que tout ce monde se parle ensemble. Tout ça, c'est de la comédia dell'arte. La coordination économique entre les sept est plombée par la guerre commerciale. Le partage des valeurs démocratiques est en chute libre. Et surtout, le poids du G7 est déclinant. Il représentait 60% à peu près du PIB mondial à sa création il y a plus de 40 ans. À peine plus de 40% aujourd'hui. En fait, c'est devenu un club où règne la division. Juste une illusion selon laquelle les Occidentaux seraient encore les maîtres du monde.
Voilà, à peine une sensation. Et je sens que le miroir magique nous dit maintenant... Regarde à l'est pour voir.
Et quelle coïncidence, hein. Le G7 tient donc son sommet annuel au Canada jusqu'à samedi. Et simultanément, l'OCS tient aussi sa réunion annuelle samedi et dimanche à Qingdao en Chine. Vous n'avez jamais entendu parler ni de Qingdao ni de l'OCS.
C'est vrai.
C'est pas un reproche, c'est l'illustration en fait de notre aveuglement à tous. Alors pour information d'abord, Qingdao, c'est un mi-chemin entre Pékin et Shanghai. Nombre d'habitants ? 9 millions. Oui, 9 millions, plus que le Grand Paris. L'OCS, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai. De quoi s'agit-il ? Au départ, en 2001, ça naît de la volonté de la Chine et de la Russie de coopérer en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. 18 ans plus tard, on en est où ? Depuis l'an dernier, l'OCS réunit, tenez-vous bien, outre la Chine et la Russie, l'Inde, son grand rival, le Pakistan, et les quatre républiques d'Asie centrale, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Concrètement, ça veut dire 40% de la population mondiale, 40% des réserves de gaz, 30% des réserves d'uranium, 20% de la richesse mondiale et à l'horizon 2050, sans doute à peu près 40% de la richesse mondiale, c'est-à-dire le G7. Ça reste une coopération sécuritaire avec la volonté par exemple de créer cette année une agence anti-drogue, mais c'est de plus en plus une coopération économique avec des projets en matière d'énergie, d'aéronautique, de télécom. L'ambition aussi de créer une banque régionale de développement. La Chine parle carrément d'une zone de libre-échange et de créer, je cite, un nouvel ordre économique international grâce à l'OCS. Ça a le mérite de la clarté. Un indice, pour la première fois cette année, il y aura plus de journalistes accrédités à l'OCS. 3000, qu'au G7, 2500. Voilà, vu d'ici, on n'y prête pas attention, mais comme on dit, la roue tourne.
Et puis alors, en plus, c'est peut-être ça d'ailleurs le plus important, il y a de nouveaux venus qui frappent à la porte.
Oui, et pas n'importe qui. Parmi les candidats désireux d'intégrer l'Organisation de coopération de Shanghai, la Turquie et surtout, tiens, l'Iran, qui a déjà le statut d'observateur. Et devinez quoi, cette année, le président iranien fait le déplacement à Qingdao. Hassan Rouhani, qui est en conflit ouvert, on le sait, avec Washington sur le nucléaire, rencontrera notamment le président chinois Xi Jinping. La Chine, l'Inde aussi, semblent tous deux décidés à contourner les menaces de Washington, par exemple en créant une sorte de monnaie virtuelle commune pour faciliter le règlement des importations de pétrole iranien, ce que précisément les Européens sont incapables de faire aujourd'hui. Pékin et New Delhi représentent déjà 40% des exportations de pétrole de brut de Téhéran, et les deux capitales développent d'autres projets en Iran, autour du gaz, de l'agriculture, du transport ferroviaire, etc. Alors vous savez quoi Fabienne, hein, vous l'entendez bien là, le miroir magique,
ouais.
G7, tu étais le plus beau, mais au-delà des montagnes, il y a désormais Shanghai.
Voilà, il ne faut jamais croire de toute façon les miroirs magiques. Merci mon prince, Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers sur France Inter dans Un jour dans le monde. Retour demain bien sûr, le 18-20 continue avec le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne avec un invité spécial, le plus grand et le plus gros animal qui pourrait tenir dans ce studio.